Un Mali partagé en deux et une France également divisée, alors de manière moins tragique, hein, certes, entre partisans et opposants du mariage pour tous, c'est-à-dire opposants et partisans à la loi Taubira, pour être précis, qui regroupe les questions de l'égalité du droit au mariage et à l'adoption entre couples hétéro et homosexuels.
C'est justement le sujet du mariage pour tous que Louis Dubost, un de nos quatre éditorialistes habituels, a décidé d'aborder, puisque vous le savez maintenant, sans langue de bois, c'est le choix d'accueillir toutes les options, parfois opposées, voire contradictoires, toutes les sensibilités politiques, pour enrichir et nuancer la réflexion et le débat public.
Place donc au premier éditorial de l'année et à la plume de Louis Dubost.
Bonjour Louis, alors tu as l'honneur en plus de faire le premier éditorial de l'année.
Ah bah j'en suis enchanté. Bonjour Thomas. Si j'aborde ici la question jusque-là soigneusement évitée du mariage homosexuel, baptisé d'ailleurs avec un sens savoureux de la litote « mariage pour tous », quand pourtant seule une infime minorité de la population est concernée, c'est un peu, je dois le dire, dans le cadre d'une émission qui est au moins partiellement consacrée, contraint et forcé. D'abord, parce que je n'ai pas la prétention d'apporter beaucoup de grain à moudre à cette question où tout me semble avoir été dit, avec parfois, du côté de certains esprits chagrins, un soupçon d'homophobie voilée, et de l'autre bord, une palanquée d'hypocrisie, de mauvaise foi, de mensonges et de diffamation. Mais comment aussi s'en étonner, le gouvernement ayant refusé d'organiser un salutaire débat de fond au profit, comme d'habitude, de la démagogie et de la précipitation. Ensuite, et c'est la raison qui m'amène à ne pas avoir abordé plus tôt la question, je me sens encore assez partagé sur ce sujet et espère avoir ici l'occasion de mieux peser le pour et le contre, sans bien sûr, comme toujours, prétendre à l'exhaustivité. Alors, laissons d'abord parler mon gros bon sens généreux. Deux femmes ou deux hommes ne sont-ils pas en mesure d'apporter autant d'amour à un enfant qu'un couple hétérosexuel ? Bien sûr que si. Ne peut-on comprendre qu'un homosexuel cherche à devenir parent s'il estime que cela est constituant de son bonheur ? Je n'y trouve évidemment rien à redire, c'est au contraire même plutôt une pensée qui l'honore. Alors, les enfants élevés par deux pères ou deux mères sont-ils davantage enclins que d'autres à développer des penchants homosexuels ? Rien, franchement, ne permet de l'affirmer. Parce que Gide ou Monterland sont des hautes figures de la communauté homosexuelle dont les goûts se portaient vers de très, très jeunes et faibles, il faut le reconnaître, est-il à craindre que l'adoption soit massivement détournée au profit de pratiques pédophiles ? Cela me semble, pour être franc, assez difficile à défendre. Tout semble donc concorder vers une acceptation benoîte de cette loi ô combien symbolique. Je serai ainsi rassuré dans mon égoïsme, que je baptiserai d'ailleurs pour l'occasion progressisme, la conscience rassasiée de ma bonne action, et je pourrai jouer au grand seigneur libéral en accordant une liberté qui me coûte d'autant moins qu'elle ne concerne, comme je l'ai déjà dit, qu'une poignée de citoyens, dont je ne suis d'ailleurs pas. Néanmoins, en moi, vous vous en doutez peut-être, quelque chose résiste, et c'est justement là-dessus que j'ai peiné à mettre le doigt. On me dit que la famille n'est plus ce cadre figé, un peu caricatural que Civitas nous impose. J'en conviens de bonne grâce. Il existe des familles divisées, recomposées, des orphelins, de mauvais parents, tout simplement. Bref, mieux vaut être élevé par deux papas responsables et aimants que par tes vrais géniteurs s'ils t'imposent une vie malheureuse. Assurément, c'est là une lapalissade bien commune dont j'ai peine à percevoir la force. Mais ces tristes cas que nous venons d'évoquer ne sont là que des accidents à partir desquels aucune règle générale ne saurait être tirée. Que certaines mères indignes aient commis l'infanticide alors qu'elles avaient un conjoint, pour reprendre l'argument de Bernard-Henri Lévy, décidément d'ailleurs de plus en plus sénile, protègent-ils les enfants adoptés par les couples homosexuels de subir eux aussi toute maltraitance ? La réponse, à mon avis, s'impose sans qu'il y ait, je crois, matière à insister davantage. Concentrons-nous sur les vrais enjeux de la réforme. L'adoption, car c'est ça qui est en ligne de fond, l'adoption est douloureuse, difficile. Nul ne peut empêcher un enfant de chercher à percer le mystère de ses origines, de rejeter éventuellement les parents adoptifs qui l'ont accueilli comme un fils dans leur maison. Je ne dispose pas de statistiques, mais je crois ne pas trop m'avancer pour dire que ces problèmes sont, si ce n'est systématiques, du moins récurrents et difficilement surmontables. Or, il y a en France aujourd'hui 10 familles qui demandent à adopter pour un orphelin. Il va donc falloir développer l'offre pour répondre à la nouvelle demande, qui ne manquera pas d'être importante. On achète déjà à la carte des nouveaux-nés aux États-Unis ou en Belgique. C'est là que la GPA, Gestation pour autrui, entre en scène. GPA qui n'est, n'est-ce pas, que le Made in France d'Arnaud Montebourg, mais appliqué ici sans grande rigueur à la bioéthique. N'est-il pas tout de même piquant que la gauche, censé nous protéger du libéralisme échevelé, ce dont d'ailleurs je lui serais gré, mettre sur pied une réforme qui assoit au contraire le triomphe absolu d'un modèle capitaliste anthropophage, qui rend de plus en plus avant dans notre intimité au point de soumettre l'enfant. L'enfant qui est peut-être l'humain sous sa forme la plus vulnérable, en produit de consommation courante, de main cotée en bourse au même titre que les produits industriels ou le quintal de céréales. D'abord donc, il y a un grand étonnement. J'avais cru comprendre qu'en ce 21e siècle où triomphaient les non-valeurs du libéralisme et de l'individualisme, le couple bourgeois, image de la vieille France catholique, était bel et bien enterré, que ses derniers tueurs éphéraires s'enferraient dans une ringardise toute provinciale et que le mariage, comble du mauvais goût, liberticide et phallocratique, faisait frémir d'horreur une jeunesse dans le vent, adepte d'une sexualité d'humeur plus butineuse. Quelle ne fut pas, je dois l'avouer, ma joie d'apprendre, moi qui vis en couple depuis des années, moi qui devais subir les sarcasmes de mes camarades moins popotes, d'apprendre donc, disais-je, que mon mode de vie et mes aspirations enflammaient désormais le très tendance quartier du Marais et qu'on y défilait pour avoir le droit de me ressembler. Croyez bien que je suis très fier d'inspirer des mœurs aussi estimables. Il ne saurait donc y avoir dans mes propos une once d'acrimonie et je dis tout ça à sourire aux lèvres, sympathie au cœur. Mais vous me permettrez d'être surpris que bon nombre d'homosexuels, après avoir réclamé, ce que la société ne leur reconnut d'ailleurs que difficilement, un droit à la différence, veuille désormais se fondre dans la masse anonyme, redevenir monsieur tout le monde. Bâcler une noce devant un conseil municipal indifférent, acquérir à crédit un pavillon de banlieue standardisé, torcher des mômes qui ne seront même pas les vôtres, voir à mesure son pouvoir d'achat s'effondrer pour finir con et aigri comme tout à chacun de n'avoir pas réalisé le dixième de ses désirs. Le voilà donc, le rêve de la jeunesse libertaire, émancipée de tout préjugé. Mesdames et messieurs, au mot de droite, au mot de gauche, on vous a méchamment entubé. Aussi, redevenons plus sérieux. L'objectif fondamental n'est pas d'accorder un droit supplémentaire aux homosexuels, ce que je leur connaîtrais de bon droit, au nom d'une acception d'ailleurs particulièrement pauvre et paresseuse de l'égalité, confondue comme le rappelait la philosophe Sylviane Agachinski avec l'identité, mais bien de s'attaquer au mariage en tant qu'institution laïque, certes, mais héritée de représentations chrétiennes. C'est le dernier bastion religieux qu'on attaque ici. Oh, je vous arrête ! Ce n'est pas ici le vierge bigot qui vous parle ou l'imprécateur furieux de son impuissance et s'épuisant dans les profondeurs glauques de sa sacristie délaissée. Je ne suis ni croyant ni même baptisé et peux donc parler en toute liberté. Je réclame juste la totale lucidité sur l'œuvre de sape qui s'accomplit. On liquide le passé. On interdit aux enfants de s'interroger sur leurs origines, sur la destinée d'une famille, aux racines profondément enfouies dans l'histoire. On en fait des déracinés, sans histoire, cantonnés à leur simple existence biologique, consommateurs réduits à n'investir que le présent, faute de se nourrir d'un passé familial. Et je trouve qu'on leur promet là une pauvre petite vie, bien chétive. Alors, faut-il trancher ? Je ne me sens ici, pour être avec vous totalement honnête, capable de juger personne. Je sais en revanche que les pères de famille, les étudiants, les philosophes, les politiques, les mères inquiètes, les religieux qui défendent les droits de l'enfant me sont infiniment plus sympathiques que les ayatollahs progressistes, bilieux et géniards, toujours dans le vent, toujours prompts à tonner contre le péril fasciste, quand c'est leur terreur qui empoisonne aujourd'hui un débat dont personne ne sortira grandi. Mais cette appréciation tout affective ne saurait constituer, bien sûr, le terme d'un raisonnement. Aussi, tentons de nous montrer lucides. Les homosexuels adoptent déjà, à rien ne sert de cacher la poussière sous le tapis. Mieux vaut peut-être, oui, que la loi encadre une situation de fait, pose des garde-fous, protège les enfants et leur permette de vivre au grand jour la construction de leur famille si singulière. Mais entendez-moi bien, si nous suivons cette loi à contre-cœur, un peu par lâcheté, je dois le dire, par fatalisme, et pas très fier, au moins clamons-nous haut et fort que nous ne sommes pas dupes, que nous savons notre société attaquée et que nous connaissons les coupables. Puissent-ils un jour payer cher leur cynisme ? Voilà, en deux mots, pour éviter tout malentendu, je crois que je ne pouvais pas plus clairement dire que j'étais pour, tout en manifestant avec franchise que j'étais radicalement contre.
Merci Louis. Alors le prochain éditorial, le deuxième donc de cette année 2013, sera également consacré à cette question du mariage pour tous. Et tout de suite, place à l'enquête de la semaine.